Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La barque de l'Église a connu et connaît des moments difficiles. Elle a été assaillie par les tempêtes et les ouragans. Voilà ce que le pape François a déclaré le 21 décembre 2018 à l'occasion de ses traditionnels vœux à la Curie. Comme je le rappelais à cette antenne la semaine dernière, une phrase forte qui a pu laisser nombre de fidèles interrogatifs. Le pape parlait-il des crimes, de pédocriminalité? Pas seulement, semble répondre en écho notre invité de ce matin, comme il l'a fait déjà la semaine dernière, auteur d'un livre qualifié par le pape lui-même de bombe. Un livre dans lequel il montre du doigt les ennemis actuels du pape François, des chrétiens qui ne supportent pas l'élan de son pontificat. Deuxième émission de notre volet. Comment l'Amérique veut changer de pape? Deuxième, ai-je envie de dire. Donc, pour rappel, c'est le titre de votre livre, Nicolas Senès, paru aux éditions Bayard. Voilà, vous intervenez à cette antenne régulièrement à l'occasion de l'émission sur l'actualité de l'Église dans le monde. Et donc là, deuxième émission de deux émissions spéciales à l'occasion de ce livre qui fait grand bruit. Je rappelle que vous êtes correspondant du journal La Croix à Rome. La semaine dernière, on est donc revenu sur l'affaire Vigano. Cet ancien nonce apostolique à Washington qui en août 2018 a osé demander la démission du pape, et ce on va dire devant le monde entier, et on a vu qui était cet homme, en tout cas rapidement. On est revenu sur l'affaire à McCarrick et puis sur le malaise qu'il y a au sein de l'Église américaine et ces Américains qui veulent changer de pape tout simplement. Dans votre livre, vous développez une thèse que vous étayez lourdement, j'ai envie de dire. C'est que, dans le fond, le pape François a un ennemi. L'ennemi, c'est l'argent. Il l'a dit et redit, et ce, dès sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Il y a un événement qui a peut-être échappé à un certain nombre d'auditeurs qui symbolise un peu ce combat. C'est un face-à-face que le pape François a eu avec le responsable de l'ordre de Malte. Rappelez-nous cet événement qui en dit long.
Oui, c'était l'ordre de Malte est une vénérable institution qui a une très large activité caritative, hospitalière, à travers le monde entier avec de superbes réalisations, mais à un moment a été pris en main par un petit groupe minoritaire mais très bien organisé qui a voulu mettre la main sur l'ordre pour en faire un peu un groupe traditionnaliste, une base d'opposition au pape François. Or, ça arrive dans un contexte particulier. Un des responsables de l'ordre de Malte est brutalement renvoyé. Alors, on lui trouve une histoire qui avait pourtant été réglée avec la doctrine de la foi, mais comme quoi, sous sa responsabilité, l'ordre aurait distribué des préservatifs dans un pays d'Asie du Sud-Est. Or, ce qu'il y a derrière, c'est que ce responsable de l'ordre de Malte, qui est Albrecht von Bosleger, qui est issu d'une très vieille famille de la noblesse allemande, a un frère qui est en passe d'être nommé un des principaux responsables de l'Institut pour les œuvres de religion, qui est la Banque du Vatican, où le pape est en train, petit à petit, d'essayer de remettre de l'ordre. Et dans cette remise en ordre, il se heurte à tous ceux qui avaient fait de la Banque du Vatican et du Vatican un paradis fiscal où on pouvait tranquillement déposer son argent, le faire fructifier à l'abri de tous les fiscs du monde entier, et donc du pain béni pour un certain nombre de mafias ou d'entreprises peu regardantes sur leur façon de gérer l'argent. Et voilà, alors, parmi les difficultés de François pour réformer, on lui met des bâtons dans les roues sur les gens qu'il nomme, où on leur trouve toujours quelque chose, telle affaire, telle... Et effectivement, quelques jours avant qu'il ne nomme le frère d'Albrecht von Bosleger, celui-ci est mis en cause pour une affaire de préservatifs. Donc on imagine très bien la façon dont les ennemis du pape vont encore dire, ben voilà, encore une fois, François ne sait pas choisir les gens avec qui il gère l'argent, puisqu'il confie ça à n'importe qui. Mais François ne se laisse pas faire et il refuse cette prise en main de l'ordre de Malte, il réagit très fortement, pousse les responsables qui ont mis la main sur l'ordre à la démission, remet de l'ordre dans tout ça, et finalement aussi mettra bon ordre et terme à la réforme des finances vaticanes. Mais on sentait bien qu'il y avait là une énième attaque et sur les questions d'argent, parce que c'est là le cœur de l'attaque qu'avait connu aussi Benoît XVI. On avait attaqué le Vatican à son époque, hein, on parlait tout à l'heure, on parlait
Vatilix, hein.
La semaine dernière à Vatilix, c'était des questions d'argent, Vatilix. Et derrière, il y a finalement toute cette question. Benoît XVI avait fait cette très belle encyclique, Caritas in Veritate, où il commençait déjà à dénoncer les excès de l'argent roi. Mais voilà, comment le Vatican peut-il parler des excès de l'argent roi, des excès de la finance, alors que lui-même tombe dans ses pires excès quand il est lui-même un paradis fiscal, que sa banque fait des affaires louches. Donc voilà, Benoît XVI avait bien compris qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Et François, après lui, sait très bien que si l'Église veut être crédible dans son message de doctrine sociale, elle se doit d'être irréprochable quand elle-même manipule de l'argent. Et c'est donc toute la réforme engagée par François et achevée par... engagée par Benoît XVI, ça il faut toujours le rappeler, et achevée par François.
Alors cet ennemi que le pape a, qui le pape François a, qui est l'argent roi, donc il en parle et il en reparle, je citais l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, on pourrait citer évidemment l'encyclique Laudato Si. On découvre qu'aux États-Unis, du coup, cela fâche énormément, alors peut-être certains découvrent et d'autres c'est une confirmation. Je citerai entre autres George Weigel, biographe connu de Jean-Paul II, qui dénonce une pensée conventionnelle gauchiste, et on pourrait en citer nombre d'autres. Le pape François, en fait, c'est quoi ? Il s'est mis à dos une partie de l'Amérique, tout simplement, en nommant l'ennemi qui est l'ultralibéralisme contemporain.
Bah, il s'attaque au fondement de l'Amérique, au fondement de la puissance américaine, qui est le « enrichissez-vous ». Il ne faut pas oublier, hein, on parlait la semaine dernière de l'histoire du catholicisme américain. Les catholiques américains ont grandi, se sont développés comme minorité dans un monde principalement protestant, et ils ont toujours dû se justifier du fait qu'ils étaient bien catholiques, certes, mais ils étaient quand même de bons américains. Et parmi les gages à donner pour être de bons américains, il y a justement participer au rêve américain, participer aux fondamentaux de l'American Way of Life. Et parmi ça, il y a le « enrichissez-vous ». Et donc, il a fallu montrer qu'il partageait ce rêve et que donc il ne pouvait pas rentrer dans ces critiques qu'on taxait aisément de libéral, de communiste, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, remettaient en cause effectivement cet ultra-libéralisme, en tout cas économique. Donc voilà, ils ont donné des gages et ils se sont finalement convertis eux aussi à cette vision, jusqu'à même certains excès, c'est-à-dire qu'il y a plutôt dans certains secteurs du protestantisme, en tout cas évangélique aux États-Unis, ce qu'on appelle la théologie de la prospérité.
Mais alors j'allais venir, c'est ça.
C'est quelque chose d'un peu assez particulier. C'est une vision comme selon laquelle si vous êtes riche et bien portant, c'est que vous êtes béni de Dieu, c'est que vous avez bien agi, et que donc Dieu vous rétribue en vous rendant riche et bien portant, alors que si vous êtes pauvre ou en mauvaise santé, c'est bien la preuve que Dieu n'est pas de votre côté. Et donc il y a quand même, cette idée-là a fait aussi son bonhomme de chemin, y compris chez certains catholiques, et il y a cette idée dans certains secteurs du catholicisme américain, que si effectivement j'ai réussi dans les affaires, ça montre bien que Dieu est de mon côté, et que c'est donc ma vision du catholicisme, et à certains égards la seule légitime, et c'est pas celle de ces pauvres, par exemple de ces pauvres latino-américains qui arrivent sans le sou, clandestins, ces pauvres errent, ben eux forcément Dieu ne peut pas être de leur côté, et Dieu est à mes côtés.
Nicolas Sonnet, juste, est-ce que ça ne va pas encore plus loin ? C'est-à-dire, vous citez un moment un économiste de la banque JP Morgan, les systèmes économiques fondés sur le marché font davantage pour remédier à la pauvreté mondiale que ce qui s'est fait dans le passé pour remédier à la pauvreté. C'est une justification, en fait, d'une idéologie ultra-libérale. C'est pas seulement... c'est le prolongement, quelque part, de la théologie de la prospérité d'en faire une équation économique.
Oui, c'est un des exemples que François prend, c'est dans Evangelii Gaudium, donc sa première exhortation, qui est vraiment le programme, le texte programmatique du pontificat. Il a des mots extrêmement durs contre cette théorie économique qui s'appelle la théorie du ruissellement, très en vogue dans les milieux américains, mais qu'on connaît aussi un petit peu en Europe. L'idée, c'est qu'il faut diminuer les impôts des plus riches parce que leur permet d'avoir plus de moyens. Ça permet, comme ça prend l'image de la pyramide de verre de champagne, vous savez, dans les mariages où on fait couler le champagne dans le premier verre et en ruisselant, tous les verres se remplissent. Et là, ils disent que c'est la même chose. En donnant de plus de moyens aux plus riches, ça va permettre par ruissellement que l'argent, petit à petit, descendent vers les plus pauvres. Et c'est donc de cette façon-là qu'il faut agir. Et François dit, mais attendez, ça fait bien longtemps qu'on se rend compte que plus on fait grossir, plus on remplit le verre des plus riches, plus en fait il grossit et que jamais il ne ruisselle vers le bas. Et ça a déclenché contre François les pires accusations, et y compris dans les médias catholiques américains, en tout cas dans certains d'entre eux, qui l'ont accusé d'être communiste.
Alors vous citiez au début de la précédente émission, la semaine dernière, quand je vous demandais de commenter le propos du pape François à propos de votre livre, quand il disait que c'était une bombe, il a ajouté aussi donc qu'il n'avait pas peur de se mettre à dos une partie de l'Amérique. Alors vous retraduirez ces mots exacts. C'est cela que le pape François voulait dire. En fait, il n'a pas peur d'avoir comme ennemi ces Américains qui ont cette théologie et cette vision du système économique.
Ah, tout à fait, oui, parce qu'il a bien conscience qu'il est sur la juste voie de la doctrine sociale de l'Église et que, voilà, pour lui, il n'est pas question de revenir en arrière. Et surtout, ben, voilà, il leur pose une question, finalement. Le pape François envisage les choses de façon complètement différente. On parlait de l'affrontement de deux églises réformistes, rigoristes. Pour François, il ne s'agit pas d'une église... il rejette l'idée d'une église des purs, où il n'y aurait finalement que les meilleurs, les parfaits, les saints qui en feraient partie, et qu'il faut d'abord se convertir, et puis une fois que vous êtes parfait, vous pouvez rentrer dans l'église. Non, François a conscience que l'église, c'est d'abord des pécheurs, puisque nous sommes tous pécheurs, il le dit, moi le premier, et que donc il n'y a pas de... Il refuse qu'il appelle à la douane pastorale, et donc c'est toutes ces réformes qu'il a engagées pour... une église plus inclusive, y compris des gens qui n'apparaissent pas comme parfaits. Mais il dit aussi à ces gens-là, vous pensez parfait parce qu'effectivement, vous avez une moralité irréprochable, mais l'argent que vous avez gagné, est-ce qu'il a été gagné de façon si morale que ça? Et donc ça, c'est quand même des choses extrêmement gênantes à entendre pour eux.
Il y a en fait une autre frange que l'on découvre au fil de votre ouvrage qui est vent debout contre François, pas seulement cette Amérique que vous décrivez, mais on a l'impression toute une partie de ceux qu'on qualifie de nouveaux réactionnaires, ou plus largement de l'extrême droite plutôt. Et on découvre entre autres un personnage, alors on se demande ce qu'il fait là, tout d'un coup Steve Bannon, qui est donc un ancien conseiller spécial du président Trump. Ceux qui critiquent aujourd'hui le pape François, aux États-Unis et ailleurs, il y a comme une alliance, on va dire, d'une certaine extrême droite et de milieu de l'argent. Expliquez-nous en quoi ce Steve Bannon est une figure emblématique.
C'est une figure emblématique parce qu'il s'est vraiment institué comme le principal opposant au pape François. Il a été donc le conseiller de Donald Trump, auprès duquel il reste quand même relativement influent, même s'il est, il n'est plus salarié aujourd'hui de la Maison Blanche. Mais voilà, il s'est institué comme le maître à penser, un des maîtres à penser en tout cas, d'une certaine droite américaine. Et c'est vrai que le message à la fois universaliste de François, son message dont on vient de parler contre les extraits de l'ultralibéralisme, alors de plein fouet cet autre message de l'Amérique d'abord, cette Amérique puissante économiquement et qui s'impose au reste du monde, ça ne va pas pour un François qui justement est contre ces excès du libéralisme et a une vision beaucoup plus multiculturelle. Ce que reproche François, c'est l'idée justement qu'il n'y aurait pas de place dans l'Église pour toutes les expressions culturelles. Et donc, il ne peut pas accepter l'imposition d'une seule vision en l'occurrence cette vision américaine, au reste de l'Église catholique.
Donc, vous citez Monseigneur Ulrich, donc, qui est président de la Conférence d'Épiscopat européen, qui note la chose suivante. Steve Bannon et Alexandre Douguin. Alexandre Douguin étant un intellectuel russe ultranationaliste, influent dans l'entourage de Vladimir Poutine, sont les prêtres de ces populismes qui conjurent une fausse réalité pseudo-religieuse et pseudo-mystique, qui nie le centre de la théologie occidentale, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Qu'est-ce que vous pourriez dire des échos, vous qui êtes quand même côté européen, de cet ultralibéralisme et puis de ces visions politiques, on va dire, jusqu'en Europe et jusqu'en France?
Bon, on sait par exemple que Steve Bannon est venu rencontrer les responsables du Rassemblement national, qu'il a une influence certaine sur... il a essayé en tout cas de monter en Europe une espèce d'international populiste, par exemple en influence sur Matteo Salvini, l'ancien vice-premier ministre italien, qui s'était vraiment posé en Italie comme un adversaire hein, du pape François. Il ciblait très directement le pape François, par exemple, sur les questions d'immigration. Mais voilà, il a essayé d'organiser cet international à travers toute l'Europe, avec des résultats ces derniers temps assez mitigés, ne serait-ce aussi parce que l'Église du pape François a assez puissamment réussi à résister, en tout cas, à ces sirènes. Et on vous parlait de Monseigneur Ulrich tout à l'instant.
Qui a été nommé cardinal.
Il a été nommé cardinal par le pape François, et c'est clairement aussi la volonté du pape François de mettre en avant cette vision de l'Église en Europe. C'est un véritable message à l'Europe en disant « mais voilà la direction à suivre ».
On va faire une première pause, Nicolas Senez. Comment l'Amérique veut changer de pape, c'est pour rappel le titre de votre livre paru aux éditions Bayard. On verra après cette courte pause musicale. On va reparcourir un certain nombre des traits du pontificat du pape François qui explique cet agacement, voire même cette rage qu'un certain nombre d'Américains ont contre le pape François, ses positions sur la peine de mort, ses positions à l'égard de la Chine et plus largement face à la guerre culturelle qu'entend mener une partie de l'Amérique et au-delà certains catholiques.
Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comment l'Amérique veut changer de pape? C'est pour rappel donc le thème de cette émission, deuxième émission donc sur votre livre Nicolas Senez. Je rappelle que vous êtes correspondant du journal La Croix à Rome, ce livre paru aux éditions Bayard. Si on continue à avancer dans votre livre, après avoir vu un peu plus précisément qui étaient les ennemis du pape François, j'aimerais que vous reveniez sur les motifs, on va dire, de leur exaspération. Alors la semaine dernière, vous parliez de cette inflexion que François entend donner à la guerre culturelle qui a cours aux États-Unis. J'aimerais que vous nous rappeliez ce que c'est que cette guerre culturelle. Et puis en face de cela, le pape François semble un peu élargir, on va dire, le propos, lui en parlant de la culture du déchet, guerre culturelle contre culture du déchet. Expliquez-nous.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les catholiques américains sont vraiment rentrés dans une opposition dure avec le pouvoir démocrate, en particulier sous Barack Obama, refusant l'ensemble de la politique, des questions sociétales. C'était la question, les questions pro-vie sont vraiment devenues au centre du débat politique pour les catholiques. Avec, c'est ce qu'on a appelé les principes ou les valeurs non négociables. Donc c'était ces principes issus d'une lettre du cardinal Ratzinger à l'époque qui donnait effectivement un certain nombre de critères dits non négociables, enfin, c'est-à-dire sur lesquels il n'y avait pas de discussion possible avec les responsables politiques, et c'était en particulier les questions pro-vie. Or, François, lui, a une approche beaucoup plus large, hein,
mais
il
pas que,
dit dans une interview.
Mais pas que, peut-être, vous pouvez déjà préciser ce que c'est souvent...
Déjà pas que, mais c'est vrai que c'est là-dessus que ça s'est focalisé, même si François, lui, le dit, hein, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait des valeurs négociables et puis il y aurait des valeurs non négociables. Est-ce que ça veut dire, pour lui, voilà, dire... Valeurs non négociables, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des choses qui se négocient? Non, la doctrine sociale de l'Église, elle est à prendre dans son ensemble. Et donc, il refusait effectivement cette dialectique entre, d'un côté, les questions pro-vie et, de l'autre, les questions plus sociales. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent roi dans la société. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans le monde américain, la question s'est beaucoup plus faite sur les questions sociétales que sur les questions sociales, justement à cause de cette histoire américaine liée à la place du « enrichissez-vous » comme base du rêve américain.
Si on devait donc un tout petit peu préciser, je me permets de m'arrêter dessus parce que c'est quand même des choses dont on parle souvent dans certains milieux. Il s'agit donc de mettre au regard de l'avortement, de la question du mariage homosexuel, de l'utilisation des méthodes de contraception et, ou plus largement, des questions de bioéthique. De mettre quoi en face, Nicolas Senez? La question de l'argent roi, des migrations, quels pourraient être les autres points que Benoît XVI déjà avait évoqués et que le pape François, on va dire, précise comme n'étant pas des valeurs négociables, justement.
C'est-à-dire que pour François, le critère, c'est la dignité de l'être humain, parce que l'être humain étant l'être humain créé par Dieu, dès le moment où sa dignité est mise en cause, l'Église se doit d'agir et on ne peut pas négocier cette dignité de l'être humain. Donc si elle va être mise en cause, ben justement, pour que ça soit pour la question de l'être humain à sa naissance, ou entre sa conception et sa naissance, quand cette dignité est remise en cause par l'avortement, pour François, il faut agir. Mais elle va aussi être remise en cause quand il est exploité par une économie sans visage, ou quand il est par les migrants qui se noient en Méditerranée. Pour lui, tout ça, c'est un tout, et on ne peut pas le séparer. Et ça, c'est inacceptable pour un certain nombre de catholiques américains qui s'étaient construits justement comme étant... sur une juste morale, en tout cas sexuelle et familiale, sans regarder justement la façon dont peut-être leur argent avait pu être gagné.
Alors, autre point qui a exaspéré donc une partie de l'Amérique et une partie des chrétiens américains, c'est donc la question de la peine de mort. On avait fait une émission en son temps sur ce sujet, puisque le pape François a demandé que la mention de la légitimité dans des circonstances exceptionnelles de la peine de mort soit retirée du catéchisme de l'Église catholique. Ça a donné lieu à de très virulentes réactions donc aux États-Unis. J'en cite juste une que vous rapportez dans votre livre. Il s'agit du père Gérald Murray, qui est curé à New York et qui, sur la chaîne EWTN, qui est la grande chaîne catholique américaine, a dit la chose suivante. Il contredit, donc il part du pape François, rien moins que cela, il contredit directement l'enseignement perpétuel de l'Église l'Église sur la moralité de la peine de mort. Cette décision du pape François a exaspéré une partie des chrétiens américains.
Oui, parce qu'effectivement, on est là encore au cœur de la position de ces catholiques américains. On parlait à l'instant des questions pro-vie. On le voit, le pape François est pro-vie, et il est pro-vie de façon radicale, puisque c'est vraiment de la vie de son commencement à son terme naturel. Et déjà, Jean-Paul II s'était bien rendu compte de la difficulté pour l'Église de prôner cette défense de la vie de son commencement naturel à sa fin naturelle, et puis d'admettre dans le catéchisme de l'Église catholique qu'il y a quand même des exceptions sur la peine de mort. Or, là, on est au cœur de la culture américaine. Ces catholiques américains qui ont dû se justifier d'être certes catholiques, mais de bons américains, ont dû se défendre, dire oui, nous sommes catholiques, nous sommes pro-vie, mais quand même la peine de mort qui est emblématique d'une vision de la justice américaine extrêmement rétributive ou... cette idée du rachat justement de la peine comme lieu pour celui qui a fauté de se racheter n'est pas du tout présente, non. La peine elle est là pour punir et pour punir fort, comme ça dissuade ceux qui voudraient violer la loi de le faire. Et donc ben voilà, ils partagent cette part importante de la vision américaine et donc défendre la peine de mort comme légitime dans certains cas. Et ça, c'est... Voilà, l'Église, Jean-Paul II, a essayé de faire évoluer la doctrine de l'Église sur ce sujet-là, mais on a été empêché, justement, en particulier par les catholiques américains. Benoît XVI est allé un petit peu plus loin, mais n'a pas réussi à faire changer les choses. Et François, en s'appuyant sur ses prédécesseurs, a finalement pris acte que les choses étaient mûres pour, aujourd'hui, dire que l'Église défend la vie... du début à la fin, et que donc la peine de mort, dans cette optique-là, ne peut pas être acceptée.
L'autre point qui exaspère, parmi tous les points qui exaspèrent donc ces Américains, c'est la politique du Saint-Siège à l'égard de la Chine. Ça aussi, vous en avez parlé à plusieurs reprises à cette antenne. Pour faire court, et je vais vous laisser expliquer, il y a depuis l'élection du pape François comme une forme de réelle politique, j'ai envie de dire, peut-être au bon sens du terme, à l'égard de la Chine, où on continue à jouer l'apaisement pour essayer de normaliser les relations avec la Chine et donc de faciliter la vie des catholiques chinois. Ce n'est pas le goût de tout le monde. Vous citez le cardinal Zen, c'est un nom qui évoquera quelque chose à un certain nombre de personnes, ancien cardinal archevêque d'Hong Kong, si je ne me trompe pas, et lui emboîte le pas une partie de l'Église dans le monde et entre autres de l'Église américaine. Qu'est-ce qu'il y a de si scandaleux, particulièrement pour les Américains, dans les accents que le Saint-Siège entend donner à sa politique à l'égard de la Chine?
Alors, le but de François, c'était de résorber le schisme chinois, c'est-à-dire ces évêques légitimes, enfin, élus par les responsables chinois, ordonnés, mais non reconnus par Rome, et ça depuis quasiment le milieu du XXe siècle. Donc, François, à la suite de Benoît XVI, a repris ce dossier d'essayer de résorber ce schisme, et donc c'est en discutant avec Pékin. Et le but de la discussion, c'est donc justement arriver à un accord avec Pékin pour une nomination au moins en commun des évêques, ce que François a réussi l'année dernière, où, in fine, c'est lui qui a le dernier mot pour la nomination des évêques sélectionnés en Chine. Mais dans le même temps, Donald Trump est élu président des États-Unis et engage une guerre commerciale radicale avec Pékin. Et son but, c'est vraiment d'isoler Pékin diplomatiquement, forcer Pékin à un face-à-face avec les États-Unis. Et donc, dans cette guerre commerciale, dans cette isolation diplomatique, évidemment, Pékin a besoin d'alliés pour sortir la Chine du face-à-face que veulent lui imposer les États-Unis. Et à cet égard, mais finalement, François est un... par justement son côté aussi d'anti-Trump, on l'a vu sur l'économie, sur la peine de mort, apparaît comme un allié tout trouvé. Et donc, les discussions avec les catholiques chinois, tout d'un coup, semblent un peu assez intéressantes pour les Chinois, parce que Il n'y a pas beaucoup de catholiques hein, en Chine.
12 millions, hein, vous rappelez. Hein.
Voilà,
ça
de
fait
12
quand même pas
à
beaucoup,
25
hein,
millions, on ne sait pas. Voilà. Mais sur le 1,3 milliard de Chinois, ça ne représente rien. Donc, jusque-là, le président chinois n'avait pas vraiment envie de se fâcher avec les plus durs de son régime, avec tous ceux qui, surtout dans les différentes provinces, ont la main sur le catholicisme chinois. Bon, on ne va pas se fâcher avec eux et mettre en... Il y a d'autres difficultés en Chine. On a besoin d'eux. Bon.
C'est quoi c'est le pas aussi, le poids, j'allais dire, du pape François comme un des grands leaders du monde actuel qui a pesé dans la balance, peut-être, pour les autorités chinoises.
Oui, et puis, d'une certaine façon, gêner Donald Trump valait bien une messe. Pour résumer, voilà, il valait bien, en tout cas, de laisser le pape nommer les évêques en Chine, d'autant que le catholicisme chinois n'est pas vraiment une gêne pour le pouvoir chinois. Ils ont une action sociale qui est importante. C'est quand même une hiérarchie qu'on peut bien identifier. Il y a le pape à la tête. D'une certaine façon, les Chinois ne sont pas ceux qui posent problème. Les catholiques ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes aux Chinois. Ils ont bien plus peur des évangéliques, qui sont 50, 60 millions. Donc beaucoup plus nombreux, qui ont pas d'hiérarchie, qui sont beaucoup plus fluides, et puis qui ont aussi ce suspect d'être, au contraire, des catholiques, beaucoup plus sous l'influence, en tout cas financière, des États-Unis. Donc le pouvoir chinois a tout intérêt, finalement, à traiter avec l'Église catholique, à résoudre son problème, pour lui permettre de se concentrer sur ceux qui lui posent vraiment des problèmes, à savoir les évangéliques. Et ça, pour les Américains, c'est effectivement extrêmement problématique, parce que d'une part, bah, du coup, la Chine arrive à sortir du face-à-face diplomatique qui lui imposait, signe avec cette grande autorité morale qu'est le Vatican. Donc, voilà, ça, d'une certaine façon aussi, ça renforce la stature internationale à la fois du pape et puis ça montre aussi comment la Chine est capable de jouer le jeu du multilatéralisme, alors que Donald Trump, justement, s'attaque au multilatéralisme dans des guerres commerciales extrêmement ciblées. Donc tout ça fait que c'est extrêmement gênant pour le pouvoir américain, mais ça donne aussi, finalement, un argument... Voilà, ce pape qu'on taxait de communisme, ben vous voyez bien qu'il est communiste. Il discute avec les rouges de Pékin.
Alors, la guerre est déclarée entre le Vatican et les catholiques américains. Vous revenez donc dans votre chapitre, vous appelez ça le putsch. Le putsch, c'est donc cette tentative de déstabilisation du pape François, de son entourage, et indirectement donc de toute l'Église universelle, de Monseigneur Vigano, donc en 2018. Dans votre livre, vous rapportez, on va dire, la manière dont il a fourbi ses armes comme un vrai film d'espionnage. Quel lien y a-t-il entre ces puissances de l'argent que vous avez évoquées et l'affaire Vigano? Est-ce que derrière Vigano, c'est donc une partie des plus riches Américains qui poussent et qui voudraient renverser le pape François?
Ben, clairement, ils ont fourni à Vigano, en particulier, l'accès à leur... aux médias puissants qu'il contrôle pour justement porter son accusation. Et donc, il y a eu un véritable soutien. Ils se connaissent. Hein. On disait la semaine dernière, on rappelait qu'il a été nonce aux États-Unis. Donc, il les connaît de longue date. Il a des liens, voire même d'amitié avec certains d'entre eux. Donc, voilà.
Alors, parlez-nous de cette rencontre en juin 2018, là, au Napa Institute. Ouais. C'est chez vous, hein, à Rome, Saint-Paul-hors-les-Murs. Là, on se croirait vraiment dans un film d'espionnage. Et il y a une rencontre au sommet entre Vigano et d'autres qui ont l'air de préparer leur coup d'État contre le pape François.
Voilà, donc c'est un de ces nombreux dîners de gala, à la fois fundraising, échange d'informations, donc qui est organisé par le Napa Institute, un de ces instituts, de ces fondations, de cette nébuleuse, de cette galaxie anti-pape François, qui organise un dîner à Rome, à Saint-Paul-hors-les-Murs, donc
juin 2018,
une basilique, une basilique pontificale dont l'archiprêtre n'est autre que le cardinal Harvey, qui était justement un de ces membres de l'appartement pontifical, un de ceux qui avait travaillé de façon étroite d'ailleurs avec le cardinal McCarrick à une époque.
L'appartement temps pontifical, je rappelle, c'est l'entourage de Jean-Paul II à la fin de son pontificat, entre autres avec la présence de son secrétaire,
voilà,
Monseigneur Zivic.
Il était préfet de la maison pontificale et un de ceux par qui il fallait passer pour accéder, en tout cas, au pape Jean-Paul II à l'époque. Donc voilà, et puis sont présents à ce dîner à cette soirée un certain nombre justement d'opposants au pape François, de tous les milieux. Il y a à la fois les milieux plus, on va dire, l'opposition traditionnaliste habituelle au pape, et puis effectivement ces milieux américains, et puis le Monseigneur Vigano est présent, qui commence à se répandre aussi sur le cardinal McCarrick, qui n'a pas encore été à ce moment-là condamné par... qui a été déchu du cardinalat, mais c'est pas encore officiel, enfin voilà. Et il y a, à ce moment-là, on lui fait rencontrer un certain nombre de personnes qui lui permettent justement de mettre par écrit ces accusations et qui vont être diffusées en particulier dans les médias proches de toute cette nébuleuse.
J'aimerais juste que vous arrêtiez avant qu'on fasse une deuxième pause sur deux figures. Alors je vais vous laisser choisir lors de cette réunion, si je ne me trompe pas, donc que vous décrivez cette soirée de gala discrètement et soigneusement organisée à Saint-Paul-hors-les-Murs. Il y a donc le cardinal Burke. Qui a été le responsable de l'ordre de Malte, responsable pour le Saint-Siège. Et puis il y a une certaine princesse Gloria von Thurn, un taxis, je ne sais pas si je prononce correctement, une ancienne jet-setteuse qui a l'air d'être un personnage important, il faudrait presque retenir son nom, qui s'est mis en tête que le prochain pape devrait être le cardinal Müller ou autre, des gens qui aujourd'hui ne sont pas forcément, en odeur de sainteté au Vatican. Expliquez-nous l'une ou l'autre de ces figures.
Ben Gloria de Tour et Taxi, c'est une figure très haute en couleur, donc vous dites ancienne jet-setteuse, convertie à un catholicisme très traditionnaliste et qui s'est mise en tête justement de défendre ce catholicisme en mettant en avant des figures cardinalistes dont elle espère qu'ils joueront un rôle important, y compris jusqu'à être pape dans les prochaines années. Donc elle a tablé un temps sur... Le cardinal Ouellette, mais qui justement a refusé d'entrer dans tout complot contre le pape, même s'il n'est pas toujours d'accord avec le pape François. Il ne veut pas dire non plus qu'il est prêt à le trahir ou à le renverser.
Le cardinal Ouellette, qui est celui qui a la charge de la nomination
des évêques.
Il
se charge de la nomination des évêques. On sait qu'il n'est pas d'accord avec le pape François sur tous les sujets, mais voilà, il n'est pas non plus prêt à... on peut être dans l'opposition ou exprimer un désaccord sans non plus aller jusqu'au complot ou au schisme. Il fait partie de ces gens qui restent dans une opposition loyale au pape François et c'est tout à son honneur.
Quel moyen a cette femme que vous dites aussi être proche du fameux Steve Bannon dont on a parlé précédemment?
Alors d'une part, elle dispose de beaucoup d'argent parce que les Thurn Taxis, c'est une ancienne famille régnante d'Allemagne qui dispose d'énormément d'argent. Et puis justement, elle a de l'entregent. Et cet entregent, elle s'en sert pour justement présenter les uns les autres et faire le lien entre les différents réseaux. Et donc, par exemple, elle a présenté le cardinal Müller, qui a été auparavant, avant d'être à Rome, était évêque de Ratisbonne, la ville où elle-même a... qui est la base de la puissance des tours et taxis, là où elle dispose d'un énorme château. Et elle l'a présenté à Steve Bannon, et c'est elle, c'est plus de la mise en relation.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver, on va parler du dernier chapitre qui fait un petit peu trembler, menace sur le conclave, vous n'y mettez pas de point d'interrogation, même si après il y a un sous-chapitre, un conclave volé, point d'interrogation. Un certain nombre de personnes voudraient que le prochain conclave soit volé. C'est l'occasion de parler de ce fameux rapport Red Hat Report que certains ont commandé sur des cardinaux aux quatre coins du monde pour essayer d'influer l'élection du prochain pape. On voit ça avec vous tout de suite après cette courte pause. Je rappelle le titre de votre livre, Comment l'Amérique veut changer de pape, paru aux éditions Bayard.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Comment l'Amérique veut changer de pape ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec le livre du même nom, et nous sommes toujours avec Nicolas Senez, correspondant du journal La Croix à Rome, livre paru aux éditions Bayard. Je le disais, votre tout dernier chapitre, Nicolas, s'intitule, voilà que je ne le retrouve plus, s'intitule « Menace sur le conclave ». Avant cela, vous vouliez revenir en fait sur la suspicion qui entoure la démission de Benoît XVI et l'élection du pape François. C'est vrai que c'est une suspicion qui traîne, en tout cas dans certains milieux d'église, chez certains chrétiens, considérant qu'il y aurait eu là aussi des tractations ayant poussé à l'élection du pape François, et que d'une certaine manière on pourrait aujourd'hui lui rendre l'appareil. Entre autres, on a parlé, ou certains parlent, du groupe de Saint-Gall, que d'autres appellent la mafia de Saint-Gall. Alors expliquez-nous, que pourriez-vous répondre sur ces suspicions qui tournent autour du conclave de 2005.
Les deux conclaves, 2005-2013,
pardon.
Les menaces sur le prochain conclave ont vraiment comme arrière-fond cette idée que le conclave de 2005 et le conclave de 2013 auraient été préparés par un groupe de cardinaux qui ont voulu finalement, en particulier en 2013, faire tomber Benoît XVI, le pousser à la démission, ce qu'ils auraient réussi pour imposer leur propre pape, en l'occurrence François. Alors effectivement, il y avait un groupe assez informel d'évêques, de cardinaux au début des années 2000 qui se réunissaient à Saint-Gall, en Suisse. Un groupe de cardinaux un peu du monde entier, mais qui s'inquiétait du centralisme romain de plus en plus fort, et qui avait vraiment conscience que l'Église ne pourrait plus continuer dans cette voie-là, qu'il fallait une réforme profonde.
Bon. Alors, ils avaient un champion à l'époque, le cardinal Carlo Maria Martini.
Voilà, mais qui était déjà malade en 2005, qui sentait bien qu'il ne pouvait pas être le successeur de Jean-Paul II, trop âgé, trop malade. Ils ont poussé effectivement la candidature du cardinal Bergoglio à l'époque, qui n'entendait pas être celui qui
en 2005,
qui divisait
en l'occurrence.
L'Église. Voilà. Voilà, en 2005. Bergoglio a senti qu'il y a un parti, effectivement, qui le poussait, et il n'entendait pas être l'homme d'un parti, d'être l'homme qui divise l'Église. François a toujours refusé cette logique de parti dans l'Église. Il n'y a pas de... Donc il a exhorté les cardinaux à ne pas voter pour lui. Quelqu'un me raconte, il dit, dans cette tentative, il a vu la queue du serpent. Mais c'est ça, voilà, il voyait le diviseur, celui qui... Il ne voulait pas être celui qui divise l'Église.
Et vous dites aussi qu'il a été jusqu'à implorer les cardinaux, presque en larmes, de voter Ratzinger à l'époque.
Oui, ceux qui étaient au conclave ont raconté, évidemment sous le sceau du secret, mais comment il a fait les larmes dans les yeux, parce que vraiment, il avait ce souci d'unité, et il a toujours ce souci d'unité, et il ne voulait pas être celui qui divise l'Église.
Alors ça, c'est, c'est pour 2005, oui, quid de 2013 ?
Alors, les choses sont différentes, c'est-à-dire qu'en 2013, effectivement, les cardinaux ont changé. Certains sont là, comme Bergoglio ou Danels, mais les choses sont complètement différentes parce qu'il y a eu l'affaire des Vatilix, et résolument, là, tous les excès de la curie insupportent complètement les cardinaux, en particulier ceux qui viennent du monde entier, qui n'acceptent pas les combinations que la curie entend faire pour l'élection du successeur de Benoît XVI. D'une certaine façon, ils renversent la table en disant « Non, on ne veut pas des candidats tout faits, tout cuits que la curie ou les Italiens veulent nous donner comme le prochain pape. » Et ils vont rechercher de façon... totalement, un peu par surprise, ce vieux cardinal argentin auquel plus personne ne pensait, parce qu'il leur paraît être vraiment celui qui saura réformer l'Église et être finalement le profil de cet homme plus fort dont Benoît XVI lui-même faisait le portrait au moment où il démissionne. Mais voilà que dans ses mémoires, le canal Danels, donc, qui a été une de ces grandes figures du groupe de Saint-Gall au début des années 2000, raconte comment fait état de ce groupe de Saint-Gall et il dit « Ah ben, entre nous, on appelait ça la mafia ». Et il dit ça en rigolant, mais évidemment, le second degré, chez certains, ça ne marche pas forcément. Et des gens se persuadent qu'effectivement, une mafia aurait voulu peser sur le conclave de 2005 et aurait réussi le conclave de 2013, aurait manigancé le Vatilix pour faire tomber Benoît XVI, et que ça serait un complot des progressistes contre Benoît XVI pour mettre un pape fidèle à leur vue. Or, on sait aujourd'hui que l'affaire des Vatilix, loin d'avoir été un complot des progressistes, c'était au contraire un complot monté par un cardinal ultra-conservateur dont le but était de faire tomber le cardinal secrétaire d'État, Tarcisio Bertone, pour le remplacer, être l'homme qui apparaît comme le plus fidèle à Benoît XVI, devenir secrétaire d'État, et puis à la mort de Benoît XVI, être naturellement celui qui allait lui succéder. Donc, alors, ça venait complètement d'un autre côté, au contraire d'un côté ultra-conservateur. Mais qu'importe pour un certain nombre de personnes.
Ceci étant dit, dans le temps qui nous reste, j'aimerais que maintenant que vous nous parliez du Red Heart Report. C'est donc un programme qui a été lancé par de riches mécènes américains. Rapport chapeau rouge, on croit rêver, pourtant c'est bien le cas, avec un budget de plus d'un million de dollars. L'idée est donc de trouver en fait de quoi médire et calomnier sur un certain nombre de cardinaux, de faire en sorte que ces informations fausses ou bonnes ou mauvaises filtrent aux quatre coins du monde pour influencer sur le prochain conclave. On croit rêver, Nicolas Sonnez.
Oui, mais en même temps, dans leur logique, comme ils sont persuadés que le conclave de 2013 aurait été machiné par un groupe qui avait voulu faire tomber Benoît XVI pour élire le cardinal Bergoglio, dans leur logique, c'est tout à fait donc admissible, à leur tour, de peser sur le prochain conclave en menant des enquêtes sur l'ensemble des cardinaux.
Mais qui sont ces hommes, en fait? Qui sont
Alors, ce sont les mêmes que c'est cette nébuleuse cette nébuleuse d'ultra-conservateurs américains, de riches catholiques américains, qui mettent cette fois de l'argent sur la table, non plus pour faire tomber le pape François, mais pour enquêter sur les cardinaux.
Vous dites qu'il y a une dizaine d'agents du FBI, dont Philip Scala, un des tombeurs de la Casa Nostra à New York. Bref, c'est
voilà,
c'est
oui,
conséquent.
C'est des gens qui s'y connaissent pour mener une enquête. Hein, et donc, mais l'idée, c'est que d'ici le prochain conclave, puisque François va avoir 83 ans, donc on sait qu'on est plutôt vers la fin du pontificat que le début, et que donc il faut se préparer. Et donc, on va avoir sortir les rumeurs les plus invraisemblables. De toute façon, une fois que le pape sera mort ou aura démissionné, qui aura le temps d'aller vérifier les différentes choses qui auraient pu être trouvées, savoir si c'est de l'ordre de la véritable information, de l'accusation étayée, ou du on-dit, de la rumeur. J'ai entendu dire que le cardinal untel avait un compte en Suisse à tel endroit, ou que le cardinal untel a eu une relation homosexuelle. Personne n'y va vérifier. Par contre, ils seront décrédibilisés. Et l'idée est de faire tomber tous les successeurs potentiels du pape François. Alors, pas forcément pour mettre un pape, en tout cas dans leur vue, ultra-conservateur, mais peut-être aussi un pape suffisamment mou, suffisamment hésitant, et qu'on pourra contrôler et avec lequel on sera en mesure de saper la réforme entamée par François.
Pour finir, on aurait pu parler de l'excommunication qui peut peser sur certaines des personnes qui travaillent presque à ce renversement de François ou d'influence sur le conclave. Menace aussi qui a pu peser sur Monseigneur Vigano en demandant directement la démission du pape. J'aimerais plutôt que vous reveniez sur le silence pour finir cette série de deux émissions. Vous le disiez, le pape François, donc dans l'avion du retour d'Irlande, donc en 2018, lorsqu'ont été connues les accusations de Mgr Vigano, a fait le choix de ne pas répondre à ces accusations, laissant là aussi la place aux journalistes de faire leur travail. C'est ce que vous avez fait par cet ouvrage. Que retenez-vous de cette force du silence? Vous en parlez, et il y a derrière ça une grande leçon spirituelle à tirer peut-être pour beaucoup.
Oui, c'est une attitude spirituelle, je pense, que François fonde sur son caractère jésuite, hein, du discernement. Il avait déjà expliqué cette façon de faire quand lui-même avait connu justement par le passé des attaques. Et son idée, c'est de dire, quand on est attaqué, et qui plus est, quand on est attaqué de façon injuste, il ne faut surtout pas rentrer dans la polémique. Parce que la polémique, ça sera l'escalade. Et donc, plutôt que face à Mgr Vigano, d'apporter des arguments, des justifications, et finalement rentrer dans une politique sans fin face à Mgr Vigano, il dit, il faut, au contraire, face aux attaques injustes, il faut prendre l'attitude du Christ lors de la Passion. Il est accusé injustement et il choisit de se taire. Et ce silence, eh bien, ça va permettre aux malins qui attaquent l'Église, en l'occurrence, de montrer son véritable visage. Parce qu'en lui laissant l'espace, il va se déchaîner, et on va bien voir que les attaques, elles sont déchaînées par le diable, par le malin. Et c'est tout ce que François a voulu faire par son silence, c'est-à-dire montrer, permettre au diable, finalement, de se démasquer. Alors, il ne s'agit pas pour lui, évidemment, de dire que Mgr Vigano agit de façon diabolique, mais c'est surtout de dire que, voilà, nous tous, par notre attitude, d'une façon ou d'une autre, en rentrant dans les polémiques, en rentrant dans des débats sans fin, on est complice du mal à l'œuvre dans le monde. Et donc, c'est une invitation à changer d'attitude, à une conversion, et à la conversion de tous. Et il le dit d'ailleurs lui-même, moi-même, parfois, je peux être complice du mal, et c'est démasquer cette complicité que chacun a avec le mal, avec le diable, pour permettre à l'Église d'avancer plus avant vers la sainteté.
Eh ben, un grand merci, Nicolas Senez, d'avoir pris le temps de ces deux émissions autour de votre livre, dont je rappelle le titre une dernière fois, « Comment l'Amérique veut changer de pape », paru aux éditions Bayard. Et un grand merci à Radio Vatican, avec qui avaient lieu ces émissions, puisque vous étiez en duplex depuis le Vatican. Merci à vous, Nicolas.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.